art possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
C'est pas parce qu'on a un masque qu'on va être muselé. Il y a un moment, il faut l'ouvrir. Moi, ça me rend malade.
Soignante en colère, plus de temps, de moyens. Travail dégradé, plus de personnel, épuisé, résident en danger.
Soins au rabais, non, EHPAD en colère, résident en danger, plus de personnel, soigne et tais-toi.
J'ai pas eu le Covid, mais vous m'avez transmis la rage.
On parle de non-bientraitance, voire de maltraitance. Personne n'est maltraitant. C'est les établissements qui nous rendent maltraitants. C'est les gouvernements, c'est les directions qui n'écoutent pas, qui ne prennent pas en compte ce qu'on dit, ce qu'on fait, qui sont complètement perchés, qui ne se rendent vraiment pas compte de la réalité du terrain. On nous envoie faire des formations, prenez le temps, respectez le rythme, et bon sang, donnez-nous des bras, on a juste besoin de bras.
Eh ben ouais, il n'y a pas qu'à l'hôpital qui a besoin de bras. Dans les EHPAD aussi, comme on va le voir en deuxième partie de cette émission enregistrée lors de cette manif de rentrée de septembre 2020, dans une ville de province comme il y en a plein en France. Salut, c'est JBD, c'est La Voix Off. Et avant de retrouver les copines et copains syndicalistes, tu vas maintenant faire la connaissance de Jackie et Mireille, qui ne sont pas des militants syndicaux, mais un couple de citoyens presque lambda qui s'est mêlé à cette manif de rentrée avec banderoles et slogans pour le moins surprenants et aux fumées de complotisme.
Jackie, bonjour.
Bonjour.
Vous avez un truc marqué dans le dos?
Alors, c'est choix pour l'humanité, le gouvernement égale le vaccin, le peuple égale la résistance.
Choix pour l'humanité, le gouvernement égale le vaccin, le peuple égale la résistance. Et Jackie, vous êtes venue avec Hélène, qui elle aussi a un truc marqué dans le dos, vous pouvez le lire?
Oui, hier, masque en rade, aujourd'hui, mascarade.
Qu'est-ce qui a marqué sur votre grande bannière que vous portez à tous les deux, là?
Mon ami, lorsque la justice devient la loi, la résistance est un devoir.
Jackie?
Alors, l'explication, elle est toute simple. On veut nous injecter des produits qu'on ne connaît pas pour nous tracer dans l'avenir, des produits qui sont infects, donc pas d'accord. Alors, le gouvernement, il propose un vaccin, et nous, on propose la résistance. Mais c'est-à-dire une résistance... Il sera peut-être assez violent, hein. Parce que moi, ils me vaccineront, mais quand je serai mort, hein, c'est tout, hein. Pas avant, voilà.
Jackie, vous versez pas un peu dans le complotisme scientifique, là? Vous pensez qu'ils vont mettre des traceurs ou des puces pour nous baguer comme des animaux de ferme?
Bah bien sûr, c'est pas autre chose. Avec la 5G, de toute manière, c'est ça ce qu'on va avoir droit. Quand on ira faire nos besoins, bah, aux toilettes, ils sauront qu'on a été faire nos besoins aux toilettes. On perd nos libertés, quoi, voilà. Donc le vaccin, c'est des combines d'État, des mensonges. D'abord, on n'a droit que à des mensonges, donc on résiste. Et on continuera à résister, on va enrôler des gens, on va les prendre notre bâton de pèlerin, on ne va faire que ça, mais on va organiser une résistance qui sera sévère par rapport à nos dictateurs.
Je voulais dire, à propos du vaccin, il faut se référer aussi, bah, parce que là, c'est vrai qu'on a des suppositions sur la 5G et tout ça, mais aussi, il faut se référer à des scientifiques comme la généticienne Alexandra Orion-Code, qui explique que, premièrement, un vaccin fait en 6 mois, c'est pas possible. Créé en 6 mois ou 1 an, c'est pas possible. Et deuxièmement, la population s'immunise de plus en plus pour le Covid, donc on est des porteurs de Covid. Il y a beaucoup maintenant qui deviennent porteurs de Covid. Si on vaccine les gens qui sont positifs au Covid, il va y avoir, il y a un terme technique, là, je ne me souviens plus, mais ça va faire exploser le système immunitaire. Donc, c'est dangereux pour la santé. Là, c'est des scientifiques qui le disent. Il faut reprendre aussi les faits depuis le début, depuis l'arrivée du Covid. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui clochent dans leur explication. Ils nous ont menti. Donc, et ils continuent à nous mentir parce qu'ils se sont ferrés dans des mensonges. Donc, à un moment donné, il faut qu'on dise stop. Ça peut être compliqué pour nous, mais si on a la masse, on peut résister.
J'imagine qu'il y en a parmi vous qui ricanent en écoutant Jackie et Mireille. Jackie et Mireille sont en pleine science-fiction, pour le moment. Mais alors toi, je sais pas, mais alors moi, ça me met quand même assez mal à l'aise. Car dans ce qui aujourd'hui ressemble fort à un délire complotiste, Jackie et Mireille n'ont peut-être que quelques années d'anticipation sur les avancées de la science. Après tout, les technologies décrites par Orwell dans 1984 existent déjà depuis longtemps. Certaines du meilleur des mondes d'Aldous Huxley aussi, en partie. Et tu as déjà certainement entendu parler des nanotechnologies. Alors, des micropuces électroniques dans les vaccins, improbable aujourd'hui. Mais qu'en sera-t-il après-demain ? Et là où Jackie et Mireille n'ont pas tort, c'est qu'on nous ment. On en parle dans un instant avec des copines et copains syndicalistes.
Françaises, Français, mes chers confinés, tant de Français, tous. Alors, le gouvernement ment. Le gouvernement ment.
Il nous ment, il nous ment, c'est du vent, il nous balade, il nous vend que des salades, y'en a marre des boniments.
Il nous ment, il nous ment, c'est du vent, il nous balade, il nous vend que des salades, y'en a marre des boniments.
Il nous ment, il nous ment.
Regardez son nez s'allonge, il nous ment effrontément.
Il nous ment, il nous ment.
S'il a l'air aussi sincère, c'est parce qu'il ment franchement.
Il nous ment, il nous ment.
C'est rien que du blablabla, il a pas un seul argument.
Il nous ment, il nous ment.
C'est à des fins bien précises qu'il nous parle vaguement.
Il nous ment, il nous ment.
On fera pas de concessions, y'aura pas d'arrangement.
Il nous ment, il nous ment.
Il nous ment, il nous ment, ça fait au moins 25 ans que les fabuleuses troubadours nous chante ça et qu'on le chante à chaque rentrée scolaire, quel que soit le Hill, Chirac, Sarkozy, Hollande ou Macron, c'est pareil. Et maintenant dans cette émission, une voix que vous connaissez bien, celle de Sylvain, qui est notamment enseignant en lycée professionnel, mais aussi militant politique et syndical. Alors aujourd'hui sur le t-shirt, c'est un autocollant de la CGT et du nouveau parti anticapitaliste. Salut Sylvain.
Salut. Salut, voilà, bah ouais. Bon, t'as raison, ça a un côté rendez-vous de rentrée. Maintenant c'est compliqué de faire autrement. Même si il nous ment, on le sait, il y a un moment, il faut quand même retrouver le chemin des luttes collectives et se retrouver sur le pavé. Cette année, c'est dans un contexte qui est vraiment particulier. Je ne suis pas certain non plus que ça ait un écho très très large, qu'on se retrouve à des milliers aujourd'hui. Mais ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas à un moment donné un rendez-vous pour refixer les choses. Parce que quand même, moi, ce qui me fait un peu suer là, c'est qu'on sort d'une période où tout un tas de cadres collectifs qui existaient, ils ont quand même pris un grand coup dans la gueule.
Très concrètement, hein, tu es enseignant en lycée professionnel. Ta rentrée, c'est comment, toi ?
La rentrée, c'est vrai que c'est une rentrée un peu particulière, hein, où on se retrouve avec un protocole qui se cristallise sur le fait surtout que bah, c'est masqué. Avoir une relation d'enseignement avec des jeunes, masquer les échanges, c'est un peu compliqué. Concrètement, c'est ça le souci, je dirais, le principal souci. Maintenant, c'est en plus toute une désorganisation, une situation qui est comme souvent dans les situations paradoxales, parce qu'il y a aussi quand même le fait que pour un certain nombre de jeunes, mais même pour des personnels, se retrouver, refaire des choses ensemble, c'est quand même aussi quelque chose qui compte. Et donc, on est dans cet entre-deux. C'est refaire des choses ensemble, mais dans des conditions qui ne le permettent pas de le faire dans de bonnes conditions. Donc, voilà. Bon, enseigner dans ces conditions-là, c'est pas vraiment de l'enseignement comme on voudrait. Maintenant, ben, ça crée les conditions quand même de cadres collectifs qui se remettent en place pour des jeunes, pour des enseignants, pour des personnels dans les établissements scolaires. Donc, c'est le meilleur moyen de prendre en charge les problématiques quotidiennes qu'on va avoir plutôt que d'être chacun chez soi derrière un écran. Là, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle.
En prenant un pas de recul et en regardant la situation politique plus générale, bah, ça fait quelques mois qu'on se le dit, hein, quelle étrange période hein, quand même. Hein. Il y a vraiment eu un point de basculement très net dans ma caboche, c'est pour ce 1er mai 2020 dont on se souviendra pas, puisqu'il n'a pas eu lieu. Là j'ai l'impression que tout a explosé, ça pue le flicage autoritaire, enfin il y a quelque chose qui s'est tendu quand même sur le plan de nos libertés. Moi j'ai l'impression que le Covid il a le dos large quand même.
Alors le Covid a le dos large, ça permet de mettre en œuvre un certain nombre de choses. Hein. Je pense que dans beaucoup de domaines c'est surtout un accélérateur, que ce soit sur la question, comme tu le dis, des libertés publiques ou les attaques contre les services publics ou sur le monde du travail globalement. Hein, c'est un truc qui accélère et on voit bien comment les libéraux de toute manière font feu de tout bois dans ces cas-là. Maintenant, sur ce que tu disais, moi ce que je trouve marquant, c'est que bien évidemment cette période-là, on l'a pas assez vu venir. Je pense que quand même on aurait pu un peu plus la voir venir.
Par... Quand tu parles du confinement, déconfinement
de cette confinement, c'est-à-dire de cette arrivée à un moment, parce que des grandes crises sanitaires, guerre, c'était des choses qui n'étaient pas forcément des impensées, mais qui n'étaient pas très pensées quand même. Et ce qui me soucie quand même un petit peu, c'est que par contre, alors que tout ça c'était au mois de mars, il y a eu le déconfinement et tout, je trouve que cet impensé, il reste présent. Une des conséquences, c'est que tous les cadres collectifs ont un peu explosé. Eh bien, je trouve qu'on a du mal collectivement à reprendre la main là-dessus. Alors attention, il y a quand même des bonnes nouvelles, et parce que ce qui manque aussi, c'est un peu des rendez-vous dont les gens peuvent s'emparer. Aujourd'hui, il y a appel à la grève avec des manifestations. Moi, je pense que c'est une chose positive, même si on sait que c'est compliqué dans des lieux de travail de s'en emparer collectivement, de se mettre en grève parce qu'il faut se réunir pour pouvoir massifier la grève, et que ça, c'est pas simple. Donc, j'ai pas de grosses attentes sur le rendez-vous d'aujourd'hui. Je pense qu'il est important. Mais par contre, ce qui est important aussi, c'est qu'on ait des rendez-vous pour pouvoir discuter de ça dans les semaines à venir, et c'est important ça.
Malgré tout, ça me fait plaisir de te voir, parce que là, la manif, c'est toujours l'un des endroits où on peut croiser les copains, les gens qu'on aime bien, avec lesquels on construit une vie de lutte et aussi de rigolade, hein, parce que c'est pas que lugubre. On se voit essentiellement dans la rue à battre le pavé, mais bon, voilà, il n'y a pas d'endroit bête pour se rencontrer.
Alors, il n'y a pas d'endroit bête pour se rencontrer, se retrouver. Ça n'empêche pas de prendre... tu as des très bons thés, donc ça n'empêche pas de prendre un thé autour de ton micro chez toi pour discuter, mais c'est vrai que... Mais ça montre, ouais, tu as raison, je pense que là aussi, celles et ceux qui veulent changer ce monde, il va falloir qu'on fasse vivre aussi des espaces où on peut un peu plus faire des choses. Parce que la période, il y a quand même eu aussi des choses qui sont passées. Il y a des élections municipales qui ont eu lieu. C'est pas... Voilà, donc il y a des conditions, même si moi, j'ai pas d'attente particulière sur l'équipe qui arrive à la tête de la ville de Tours, les petites modifications que ça implique un peu partout.
Alors pour les gens qui sont pas de Tours, hein, on a une équipe, disons, avec des socialos recyclés et puis des gens qui se prétendent écologiques à la Yannick Jadot et qui n'ont pas trop envie de pourfendre le capitalisme malgré tout, parce que
tout à fait.
Comme tout bon ver le sait, le capitalisme est tout à fait compatible avec l'écologie de marché. Non, je mélange tout, enfin, vous voyez ce que je veux dire.
Exact, exact. Et donc, bon, on n'a pas des grosses attentes par rapport à ça. Pour autant, moi, je pense que quand même, ça veut dire que les conditions ont quand même un petit peu changé. Donc, de toute manière, à Tours comme ailleurs, hein, soyons imaginatifs, créons justement ces espaces qui vont permettre de retourner vers les cadres collectifs. Parce que, par contre, la pandémie, le Covid, tout ça, toutes les attaques qu'on a, moi, ça me confirme une seule chose, c'est que la seule sortie, elle sera justement collective. Là, peut-être que dans un premier temps, recréer des collectifs, ça va être pour se fader des choses qui ne sont pas les terrains sur lesquels on pense qu'il y a le mieux à construire. Bah, comment on fait face au Covid ou des choses comme ça. Mais après tout, ce sont des cadres collectifs, et quand les gens doivent collectivement prendre un peu leur vie en main, et il y a des questions pratiques qui se posent sur comment je vis au quotidien, comment je me nourris, etc. Essayons de faire qu'il en sorte des choses qui vont permettre de reconstruire des mobilisations et des luttes. Parce que par contre, moi, je reste convaincu que sans rapport de force, on n'obtiendra rien. Hein.
Il nous manque. Oh là là, ça s'agite, c'est plus un pressentiment. Il nous manque. Tous les cadres ont disparu comme par enchantement. Il nous manque. Ah voilà, les CRS, ça va mettre du piment. Il nous manque. Ils passent pas par hasard pour nous faire des compliments. Il nous manque. Et y a même pas une heure, ils nous parlaient de règlement. Il nous manque. Ils disaient on va s'entendre, vous voyez bien qu'il nous manque. Il nous manque. Y a les pompiers, les ambulances et tout le tremblement. Il nous manque. On voit qu'ils prévoient le pire, ils croient plus au pourrissement. Il nous manque. Ils savent pas qu'ils manipulent une bombe à retardement. Il nous manque. On est là et on y reste, surtout pas d'affolement.
Il nous manque. Et bah c'est la rentrée dans cette émission, une voix que vous connaissez bien, celle de Dom le cheminot de chez Sudrail. Salut mon camarade.
Salut JBD, bonjour tout le monde.
J'ai l'impression d'avoir, depuis 25 ans, déjà vécu cette scène. Tu sais, il fait encore beau, c'est la rentrée, les étendards de la CGT de Solidaire et compagnie, voilà, c'est les copains qui rentrent de vacances, tout le monde est en short. Une petite impression de déjà vu sans l'avoir déjà vu, parce que il y a quand même un détail en plus, c'est les masques. Et toi, il y a le A de anarchie sur le tien.
Ouais, j'ai un peu customisé le mien parce que bon, voilà, c'est...
Et ben voilà, tu fais venir les flics, c'est bravo.
On peut marquer ce qu'on veut sur nos masques, c'est l'avantage, enfin on essaie de s'en servir comme ça. Après, on n'a pas envie qu'ils nous interdisent de manif, donc on respecte, et puis surtout on n'a pas envie de contaminer, d'être contaminé, donc on respecte.
Ah merde, j'ai jamais essayé de me casser les couilles.
Alors ça c'est, voilà, malgré le masque, je l'ai reconnu, c'est C'est Tony le contrôleur de chez Sudrail aussi. Salut mon Tony.
Salut ma poule, ça va? Ouais. Eh ben écoute, voilà, on est tous là, un beau cluster. T'as vu, il y a un gros cluster là pour aller contre Macron, pour aller foutre.
Tu as passé de bonnes vacances.
Ouais, je suis requinqué, je suis boosté. On est en forme là, on est en forme. Il faut absolument faire voir. Ben, j'espère qu'il y a un virus. Regarde, la dame, elle l'a marqué dessus. Hein. Vite un vaccin contre la Macronie.
Parce que les gars, vous qui êtes du métier, puisqu'on est devant la gare, on est dans une zone où le masque est obligatoire là ou pas?
Dans la gare, oui. Devant la gare, non.
À Tours, c'est dans la rue de Bordeaux, tu le mets. Dans la rue là-bas, tu le mets pas. Enfin,
ben, c'est bien, je suis rassuré. Je te rappelle que tu es censé être contrôleur dans la vie. Tu sais, quelqu'un qui fait voyager les usagers. Ah, pardon, je suis pas moderne. Les clients en toute sécurité. Donc merci Tony, je me sens super en sécurité quand tu es aux abords de la gare.
Moi,
merci.
À 30, je suis en sécurité, tu seras en sécurité sur mes trains, je t'annonce.
Bon, comment ça va les cheminots là?
Bah, c'est la reprise quoi. Alors, il y a eu quelques annonces là où soi-disant ils veulent relancer le fret, ce qui est complètement faux. Ils ont carrément détruit le fret SNCF. Alors, relancer le fret, mais privé peut-être. Et puis, ce qu'ils appellent fret aussi, c'est surtout les camions. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'ils voulaient relancer aussi? Les trains de nuit. Bah oui, ils veulent relancer les trains de nuit puisque c'est des boîtes privées, des boîtes notamment italiennes qui veulent se positionner dessus. Donc, ils peuvent dire qu'ils vont relancer les trains de nuit, mais tout ça, pareil, ils font des cadeaux pour les péages, puisque chaque train paye un péage pour circuler sur les infrastructures. Aux boîtes privées, ils ont gelé le niveau des péages, ce qui fait que ça va faire moins d'argent pour entretenir les voies. Et au final, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont sacrifier toutes les petites lignes à côté que les régions pourront plus rénover, et puis ils mettront des cars. On l'annonce depuis quelques années, et le jour où ça arrivera, tout le monde fera l'étonné. Mais je pense que Loche-Chinon, ça va être amené à disparaître. Et ça sera des cars, quoi. C'est plus rentable pour eux.
TER, ça veut pas dire train express régional, hein. Non, transport. Donc transport, ça veut dire qu'ils peuvent très bien changer du train et passer en bus. Et c'est ce qu'ils vont faire sur la ligne de Loche. De toute façon, c'est des lignes qui, pour eux, ne sont pas forcément très rentables. Donc, c'est amené à disparaître. Et le service public avec, pour laquelle on se bat depuis quand même quelques années, hein, pour faire voir aux gens que nous, notre position Sudrail, de toute façon, ça serait que les gens, le train soit gratuit. Et là, ça serait le top, mais bon.
J'ai l'impression qu'on se met le même disque depuis des années. Privatisation du bien collectif, destruction du service.
En fait, il y a eu une lueur d'espoir pendant le confinement parce qu'ils nous parlaient du monde d'après. Mais bon, on n'est pas dupes. Hein. Bon, ils ont versé une petite prime aux premiers de corvée, hein, ceux qui étaient en première ligne, les infirmières, et encore pas à toutes, hein, parce qu'il y avait des conditions. Et puis voilà, c'est filer des cacahuètes. Il n'y a aucune revalorisation des salaires. C'est uniquement une prime ponctuelle. Et ils continuent la destruction des services publics. Là, ce qu'ils veulent pas, parce qu'ils n'ont pas donné beaucoup plus de moyens aux hôpitaux, ce qu'ils veulent pas, c'est que l'épisode de mars, avec un afflux de malades à l'hôpital, recommence. Et c'est pour ça qu'ils essaient aussi de faire peur un petit peu à toute la population en disant, attention, la deuxième vague. Mais quand on regarde vraiment les cas d'hospitalisation, on voit qu'il y a un petit sursaut, mais c'est pas la catastrophe annoncée, quoi.
Donc, il a le dos large, hein, ce virus, quand même. Hein. Ça pue de plus en plus le flicage, les drones... Quel pain béni ce coronavirus quand même, hein, pour un état totalitaire.
Bah non mais là ouais, c'est exactement ça quoi. C'est la dictature douce. On impose des mesures quand c'est pas vraiment nécessaire. Alors d'un côté les gamins ont le droit d'aller à l'école, de l'autre côté on n'a pas le droit de faire la fête, alors que les amphithéâtres dans les facs sont hyper bondés.
T'aurais pu aller au Puy du Fou cet été, c'était autorisé. Hein,
9 000 autorisés.
Ils avaient le droit au Puy du Fou.
T'aimes pas la culture ou quoi?
Et depuis du foot, enfin de Villiers, on sait bien que c'est le pote du président, et puis c'est le fils de Villiers, le violeur de son frère, qui est directeur du Puy du Foot, donc il y a peut-être des passe-droits aussi là-dessus.
Là, on a bien compris, et là je m'adresse aux militants syndicaux, de toute évidence, il va falloir trouver d'autres manières, faire autrement, enfin on a basculé dans autre chose là. Enfin le 1er mai, qu'est-ce qu'on avait le droit de faire? D'accrocher des banderoles à sa fenêtre ou de manifester sur Internet quoi.
Même ceux qui ont montré leur désapprobation, ils ont été interpellés. À Toulouse, ceux qui avaient mis des pancartes devant leurs fenêtres, on a même été les verbaliser chez eux, donc la dictature allait bien en place.
Moi sur ma bannière j'avais marqué halte au patronat virus, et là ça va, on m'a foutu la paix, mais par contre des gens se sont pris des amendes parce qu'ils avaient marqué macronat virus. Ouais. atteinte au président de la République, machin, tout ça. Vous en parlez entre vous, là, chez Sud, militer autrement?
Oui, on en parle, même si, voilà, on est...
Vous disiez faire la fête, bon, voilà, d'accord.
On prône tout le temps la grève générale, mais les deux sont liés, en fait. Il ne faut pas se passer des deux, c'est-à-dire les deux, quand je parle de la grève générale et de la solidarité, c'est-à-dire de montrer aux gens qu'une autre société est possible, qu'on n'est pas obligé de tout baser sur le consumérisme, sur l'argent, puisque bien souvent, quand on fait des repas comme ça partagés, c'est prix libre. Donc même le pauvre gars ou la pauvre femme qui vit dans la rue, qui n'a pas de thunes, elle mangera. Et bien souvent, quand on fait prix libre, ceux qui ont les moyens ont tendance, qui ont plus les moyens, ont tendance à donner un peu plus parce qu'ils ont peur de donner pas assez. Et c'est ce qui nous permet... Bien,
tous les êtres humains ne sont pas foncièrement mauvais, en fait.
Vrai,
ça fait plaisir.
Il paraît,
c'est une bonne nouvelle, ça.
Ça donne un espoir, quoi. Et c'est pour ça qu'on continue de lutter, parce que, et puis qu'on continuera toujours, quoi. Puisque, de toute façon, à la fin, on sait qu'on va gagner, mais bon... Il n'y a que ceux d'en face, hein, qui ne le savent pas, qui croient que leur monde est immuable, que rien ne va changer. Mais là, je pense qu'ils se sont rendus compte que ça pouvait vaciller juste avec un petit virus. D'ailleurs, on pense à changer le nom de Sudrail. On va peut-être s'appeler, je ne sais pas moi, Corona Rail, un truc comme ça, parce que ça a l'air plus efficace, les virus, que la grève, pour l'instant. Mais bon, il ne faut pas dissocier les deux. Et puis, il ne faut surtout pas s'en passer, parce que c'est vraiment dans la rue que ça se passe, quoi. Voilà.
Sylvie, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous voulez bien nous lire ce qui est marqué sur votre pancarte ?
Macron, tes fermetures de lit, ça suffit. Et vite, vite, oui, un vaccin contre le macronavirus.
J'ai cru entendre qu'il y a des gens qui se sont pris une amende parce qu'ils avaient accroché halte au macronavirus à leur fenêtre. Alors, c'est un délit, là, ce que vous êtes en train de commettre, hein, offense au président de la République, tout ça. Oh là là, c'est pas bien.
Non, non, c'est pas un délit. J'insulte pas Macron. Macronavirus, c'est un mot inventé. Là, en l'occurrence, c'est sa politique que je conteste de façon virulente, mais sa politique est tellement dévastatrice, tellement dégueulasse. Bah oui, il faut des mots forts, quoi. Mais c'est pas le personnage. J'ai jamais insulté qui que ce soit. La politique menée, là, on a le droit de la contester, et en aucun cas, c'est un délit. Ou alors, on tombe après dans une censure, une atteinte à la liberté d'expression, quoi. Donc, non, je suis assez tranquille. J'ai pas envie d'aller au Newf. Voilà, je suis tranquille.
Sylvie, donc je relis votre pancarte. Hein. Macron, tes fermetures de lit, ça suffit. Vite, un vaccin contre le macronavirus.
On n'en serait pas là s'il n'y avait pas eu autant de lits fermés. Et les services de réa, ils n'auraient peut-être pas été encombrés comme ils l'ont été. Et puis aussi, si en amont, il y avait suffisamment de personnel pour soigner les gens correctement, quoi.
Mais Sylvie, vous écoutez pas France Intox, vous savez...
Eh ben si, justement.
Vous savez pas qu'on est devenu un pays du tiers-monde. On est 6e puissance économique du monde, mais on est un pays du tiers-monde. Vous savez, on n'a plus les moyens de payer nos profs et nos infirmières parce qu'il y a la dette, Sylvie. Enfin, écoutez, vous tenez un discours archaïque, vous n'êtes pas moderne. Écoutez Léa Salamy et Nicolas Demorand qui vont vous expliquer la vérité. Parce que après tout, les gens malades, c'est des gens qui travaillent pas, ils servent à rien.
Ah bah, les gens malades, c'est vous et moi, c'est n'importe qui, quoi. Donc, il faudrait arrêter de les accabler, il faut plutôt les soigner pour qu'ils aillent mieux. Parce qu'on va creuser toujours plus le déficit si on fait tout pour que les gens se soignent de moins en moins bien. C'est ce qui se passe aux US, quoi. Un État ultra-libéral, ça coûte hyper cher, il n'y a pas de remboursement. Eh ben les gens, ils se soignent pas, et puis on voit l'état sanitaire du pays, quoi. C'est pas lié au coronavirus, hein, l'épidémie là-bas. C'est parce qu'il y a une très mauvaise politique de santé. Il n'y a même pas de politique de santé publique, d'ailleurs, on va dire.
Catherine, bonjour.
Bonjour.
Catherine, en blouse blanche, avec des collègues. Est-ce que vous pourriez me lire ce qu'a marqué sur le panneau de la copine ?
Soignante en colère, plus de temps, de moyens.
Bonjour Mégane.
Travail dégradé, plus de personnel, épuisé, résident en danger.
Bonjour Pauline.
Bonjour. Soins au rabais, non, et pas en colère. Résident en danger, plus de personnel, soigne et tais-toi.
J'ai pas eu le Covid, mais vous m'avez transmis la rage.
Qu'est-ce que vous faites comme métier ?
Nous sommes aides-soignantes dans un EHPAD.
On est dans la fonction privée à but non lucratif. Et pour parler principalement du Ségur, parce que c'est aussi pour ça qu'on est là, c'est que le public, la fonction publique a eu le Ségur, la revalorisation des salaires. Le privé est encore oublié, comme d'habitude. Les EHPAD sont encore mis de côté.
et non valorisés, alors qu'il ne faut pas oublier que pendant le Covid, pendant les grippes, pendant les gastro et toutes les pathologies, les maladies qu'on peut rencontrer, c'est aussi les aides-soignantes du privé qui sont mises en première ligne et qui sont toujours là et qui se battent au quotidien pour défendre leurs aînés, leurs conditions de travail et leurs salaires. Et une fois de plus, on est mis aux oubliettes et on se bat aussi pour nous aussi mériter cette revalorisation qu'on attend. Parce qu'il ne faut pas oublier que les soignantes dans les EHPAD, elles ont une charge de travail qui est considérable. On est une pour 17.
Mais alors vous faites voler un mythe en éclats, Mégane, parce que moi, on m'a toujours expliqué, les économistes intelligents qui parlent tous les matins à France Inter, tout ça, nous disent toujours que quand c'est privé, c'est mieux.
Non, bah, c'est privé, c'est mieux peut-être, bah, pas chez nous en tout cas.
C'est-à-dire que c'est plus cher pour les résidents, ça c'est sûr, mais nous, on ne gagne pas plus. Hein.
Combien ça coûte un mois de base ?
2 500 euros, 3 000 euros selon le GIR. Selon le GIR à laquelle ils entrent chez nous. Après, il ne faut pas se leurrer. Les résidents qui entrent en institution, ils n'arrivent pas en GIR 6 où ils sont autonomes et ils savent tout faire tout seuls. Sinon, ils n'ont pas d'intérêt à rentrer chez nous. Ils rentrent chez nous parce qu'ils ont forcément une dépendance quelque part. Ils ont un trouble cognitif, ils n'arrivent peut-être plus à fermer le gaz tout seuls. Ils ont des chutes à répétition. Ils sont peut-être seuls parce que leur famille part loin. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui rentrent en EHPAD et nous, le but, c'est de travailler dignement, autant pour eux que pour nous. Et je peux vous dire que depuis ces derniers mois, on est loin de rentrer chez nous avec le sourire en se disant qu'on a fait un travail convenable et digne pour nos aînés. Donc on est encore en grève et on restera en grève tant que l'État et le gouvernement n'aura pas décidé de valoriser les EHPAD et valoriser tous les soignants. Tous les soignants qui travaillent dans le public, dans le privé, les territoriaux, aujourd'hui, on se bat pour nous, mais on se bat aussi pour eux, parce que les prochaines personnes âgées, ben, c'est vous tous, c'est nous tous. Et si on veut travailler dignement, c'est aujourd'hui qu'il faut agir et pas dans 10 ans.
On est en manque de personnel énorme, on demande des postes supplémentaires qu'on, l'ARS nous donnera pas parce qu'ils n'ont pas réévalué les grilles par rapport au fait que les personnes qu'on a dans notre établissement sont vieillissantes, non autonomes, de plus en plus demandeuses et du coup bah, on travaille toujours sur le qui-vive parce que bah, on a toujours peur d'une chute, de quelque chose qui se passe et du coup c'est du travail bâclé. Nous, pour nous, on a l'impression que c'est du travail bâclé. On donne notre maximum, mais...
Comme disait Mégane à l'instant, là, ça vous arrive de rentrer chez vous le moral dans les chaussettes en disant « j'ai pas les moyens de faire correctement mon travail ».
Exactement, mais moi, cet été, ça a été encore pire, puisque moi, j'ai pas eu de vacances tout de suite. Je suis en vacances que maintenant. Pour vous donner un ordre, au lieu de 8, un soir, on a travaillé à 4. En sachant qu'à 8, on couche déjà 26 personnes. Donc à 4, vous vous rendez compte ? Du jeté de papier de mamie dans le lit, donc ça ne me convenait pas du tout. Donc je suis arrivée chez moi, j'étais très colère.
Dites, faites-nous rêver quand même. Parce qu'il y a aussi une mythologie qui dit « Ah, dans le public, il y a une hémorragie, ils vont tous travailler dans le privé, parce que dans le privé, c'est mieux. »
Bah, déjà, dans le public, une aide-soignante début de carrière commence à peu près à 1600 euros dans le public. Une aide-soignante dans le privé, elle commence à peine à 1350, 1400 euros si elle a de la chance. Donc déjà, là, vous rajoutez le Ségur. Il va y avoir les 183, c'est ça ? 183 euros en plus, certes au rétroactif, mais qui a été acté par l'État, qui a été acté par tout le personnel qui travaille dans le milieu public, mais toutes celles qui travaillent dans le milieu privé, toutes celles qui travaillent dans les ADMR, dans les buts privés lucratifs ou non lucratifs, comme nous, on est dans un établissement à but non lucratif, elle est où la revalorisation des salaires ? Une aide-soignante qui commence chez nous, elle commence à peine à 1400 euros. Il y a déjà quasiment 250 euros d'écart avec le public. Vous rajoutez les 193 euros. Vous croyez que les aides-soignantes du privé, elles vont rester dans le privé ? Eh bien non, elles vont toutes partir dans le public.
Ça fait 15 ans que je travaille dans l'établissement. Je travaille à mi-temps et je touche 747 euros. Et je travaille deux week-ends.
Oui, ça fait rêver, quoi.
Ah oui, on peut aller sous les cocotiers.
La manifestation vient de s'ébranler et avec des blouses blanches et avec autour de nous des drapeaux Sud Solidaire Santé Sociaux. Bonjour Nathalie.
Salut.
Bonjour Cécile.
Bonjour.
Travaille où toi ?
En EHPAD.
C'est une manif de rentrée, on est encore en petite robe et en short. Il y a juste un détail qui a changé.
Oui, voilà, on est tous un peu masqués. Hein. Ben oui, il faut tous se masquer, c'est important. Mais
On espère être nombreux, on espère ne plus avoir à manifester, mais bon, apparemment, il faut encore sortir dans la rue et s'exprimer pour faire part de notre mécontentement et surtout attendre des résultats concrets dans les services, mais même dans d'autres secteurs professionnels.
Alors moi, je pensais que le gouvernement avait compris quand les gens sont vivants, ils travaillent mieux que quand ils sont morts. Donc d'avoir un service de santé publique, c'est quand même drôlement bien. Et puis que y avait besoin de monde et de personnel dans les EHPAD. Donc ça y est.
Oh oui, bien sûr. Non. Pour l'instant, on n'a rien vu du tout. Il n'y a aucun renfort de personnel. Ça a été pendant quelques semaines en pleine période de confinement. Mais depuis, c'est retombé, c'est parti aux oubliettes. Et faut pas lâcher l'affaire parce qu'on est toujours en souffrance dans les services.
C'est incroyable parce qu'il y a encore 2 mois, vous étiez des super-héros.
Mais on est toujours des super-héros, mais tout le monde est des super-héros.
Maintenant, on redevient fort minable. À l'UIN, les conditions de travail aujourd'hui, c'est -2 le matin, -2 l'après-midi, toujours en situation dégradée. Ils veulent nous faire passer des procédures dégradées en priorisant les soins, en sachant qu'on fait toujours un minimum. La personne âgée, c'est pas un carton, c'est une personne. On nous demande de travailler dignement, de les respecter. On n'a pas les moyens.
Vous aviez déjà pas les moyens avant la crise sanitaire. Ça s'est donc pas arrangé.
Ah non, loin de là. En ce moment, on travaille, on a notre planning, très bien. Sauf que on sait ce que c'est. Les gens, à force de revenir, sont fatigués. Ils reviennent sur des repos, sur des récups, sur des vacances. Avec la carotte des heures supplémentaires, ça intéresse les gens parce qu'au prix où on a payé la catégorie C avec les gels d'indice, des augmentations minables qu'on a eues, quand on voit que les agents augmentent d'un point en début de carrière, un point ça équivaut à 4,69 brut. Avec une augmentation pour l'année, on prend un échelon tous les 2 ans, 2 points d'augmentation, c'est du foutage de gueule, entre guillemets. Et on dit que les fonctionnaires ont la bouche pleine, qu'on est toujours dans la plainte. Excusez-moi, mais la fonction publique hospitalière, on est vraiment mal lotis. Au niveau budget, il faut prendre des gires 1 ou 2 pour l'établissement. Alors, gires 1 et 2, ça correspond à des gens qui sont complètement dépendants, puisque les gens restent de plus en plus chez eux, parce que ça coûte cher, mais on les prend pas en charge correctement. On leur fait un rythme de fou, lever, coucher. On couche les gens à 3h de l'après-midi ou 5h parce qu'on se retrouve à 2
pour 30 personnes.
2 pour 30 personnes.
2 pour 30 personnes, tout à fait. Pour les faire manger, pour les coucher, pour prendre soin d'eux, pour discuter aussi.
Vous avez encore le temps de discuter ?
Non, même pas. On discute le temps qu'on les change, c'est tout. C'est-à-dire en 2 minutes à peine. Et on les fait manger en 3 secondes. Ils ont à peine le temps de manger dignement, correctement. C'est lamentable, c'est des conditions de travail lamentables et c'est des conditions pour nos aînés, nos anciens, c'est honteux.
Et vous êtes masqué au travail ?
Obligatoirement masqué, oui.
Les anciens aussi ?
Alors non, eux non, sont pas masqués, mais c'est un problème aussi de communication pour eux parce que ça les gêne, mais bon.
C'est déjà pas drôle d'être vieux, même s'il y a des gens compétents pour qui n'ont pas le temps de s'occuper de vous en fait, mais enfin on peut pas faire de généralité, mais comment est-ce que c'est quoi l'ambiance à l'EHPAD ? Comment ils le vivent les anciens, la situation.
C'est compliqué pour eux parce que beaucoup sont sourds, malentendants. Le masque, ça me fait une barrière supplémentaire. Ils se sentent isolés.
Voir aussi le fait qu'on ne peut pas accepter plus de 2 personnes en chambre pour les visites. Donc ça crée des barrières supplémentaires de contact et ils s'isolent de plus en plus et on assiste à des syndromes de glissement des personnes âgées qui se laissent aller. Je ne sais pas si les statistiques seront faites une fois cette crise passée, mais il y a certainement un taux de mortalité supplémentaire dans les EHPAD, je pense.
Parce que les gens ont encore moins de contact qu'avant.
Voilà, tout à fait.
Ils sont moins vivants, entre guillemets. Déjà, on était catalogués comme mouroirs, mais alors là, ça prend vraiment...
Les consignes à l'intérieur des EHPAD sont également de ne pas les rassembler tous
en même temps. Donc on essaye de faire un roulement. Dans les salles à manger, ils doivent manger en quinconce. Donc même eux-mêmes, en tant que résidents, ils ne peuvent même pas manger les uns à côté des autres. Enfin, il n'y a plus d'ambiance de vie en réalité, de semblant de vie. À l'extérieur des EHPAD, dans nos vies de tous les jours, on peut le comprendre, mais eux, ils ont du mal à comprendre tout ça, à comprendre toutes ces règles qui leur sont imposées. Cognitivement parlant, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas toutes ces mesures et enfin, ils n'admettent pas toutes ces conditions.
Je suis en train de penser à un truc tout bête. Enfin, quand on est enfant ou adulte, etc., on a des contacts avec les autres, on se touche, on s'embrasse, on se prend par la main. La communication, elle ne passe pas que par les deux minutes de mots que vous avez le temps de leur donner, machin. Et là, je suis en train de me rendre compte que pour un ancien qui ne touche pas d'autres personnes, enfin, qui n'a pas beaucoup de contacts, là, je suis en train de me rendre compte qu'il vous manque la moitié de votre visage. Ça veut dire la moitié de la communication en moins, en fait. Et pour un ancien, ça doit être terrible, surtout s'il est sourd.
La seule communication, c'est au moment de la toilette. Le toucher, et encore si on peut appeler ça toucher, parce qu'on a les gants, évidemment. Il n'y a pas de toucher sans barrière. Alors, il n'y a pas le contact, la vision, puisqu'on est masqué. Il n'y a pas le contact du toucher, parce que la peau, c'est quand même important aussi chez nous. Quand on masse les gens, quand on les lave, c'est compliqué. Le fait d'être toujours en sous-effectif aussi, on minimise nos rapports, puisque la toilette, elle est faite beaucoup plus rapidement. Quand on voit qu'on a 10 minutes, un quart d'heure par résident pour la toilette, sachant qu'il faut préparer les cuvettes, les installer, les laver, les rincer, les sécher, les habiller, les accompagner éventuellement aux toilettes.
Les coiffer, les raser, enfin tout ce que tout un chacun a le droit.
Vous voyez ce que ça peut faire ? En sachant qu'à domicile, pour le même soin, ça correspond à peu près à une heure. Il y a quelque chose qui ne va pas quand même. Alors, le gouvernement a promis de mettre en place des moyens au moment du confinement. Sauf que les seuls moyens qui ont été mis, ça a été une putain de prime Covid.
Le son, il a changé là, parce que Nathalie, vous avez remarqué, sa voix, elle est moins sourde, parce qu'elle en avait ras-le-bol d'être interviewée derrière son masque et elle a fini par le faire sauter.
Ah bah oui, parce que j'en ai marre, et puis c'est pas parce qu'on a un masque qu'on va être muselé. Il y a un moment, il faut l'ouvrir. Moi, ça me rend malade de voir que les personnes ne se rendent pas compte des mensonges, des manipulations qui sont données par le gouvernement. Ils ont balancé cette putain de prime, je le dis, pour scinder les personnes. Ils manipulent en disant une petite miette par-ci, allez, 500 euros pour un, 1000 euros pour l'autre, 1500 pour l'autre. Tout le monde est content en individuel. Et ce qui fait que personne ne réagit alors qu'il y avait eu des soubresauts, franchement.
Comment ça, tout le monde est content? Vous avez risqué votre peau pour 500 balles.
Et ben,
vous coûtez pas cher. Hein.
Y en a qui sont, et ben, malheureusement, il y en a qui sont contents.
Ça coûte pas cher à un être humain. Hein.
Mais on est bien d'accord. Après, ils ont balancé la prime grand âge, 118 euros.
Youhou !
On parle en brut, évidemment. Et du coup, là, ils nous annoncent 90 euros avec leur Ségur, que c'est de la merde, encore un coup. 90 euros là, 93 euros au mois de mars. C'est vraiment des enflures. Et on n'en peut plus, on n'en peut plus. Enfin, moi, je suis là aujourd'hui, je dis stop, j'en ai marre. Qu'on nous entende dans notre manière d'être, de faire, dans notre métier. C'est un très beau métier. Je suis aide-soignante, je fais ça depuis 31 ans. Je suis à ma place, j'aime mon métier, mais j'aime pas du tout les conditions dans lesquelles je le fais. C'est de pire en pire. Je me bats.
Dans lesquelles on nous oblige à travailler.
On parle de non-bientraitance, voire de maltraitance. Personne n'est maltraitant. C'est les établissements qui nous rendent maltraitants. C'est les gouvernements, c'est les directions qui n'écoutent pas, qui ne prennent pas en compte ce qu'on dit, ce qu'on fait, qui sont complètement perchés, qui ne se rendent vraiment pas compte de la réalité du terrain. On nous envoie faire des formations, prenez le temps, respectez le rythme, mais bon sang, donnez-nous des bras, on a juste besoin de bras. On n'a que des contractuels maintenant.
Deux salariés pour 30 pensionnaires, comme on dit d'ailleurs.
Des résidents chez nous.
Des êtres humains.
Voilà.
Des êtres humains, voilà, je cherchais le mot, des êtres humains, merci.
Des êtres humains,
voilà.
Des personnes âgées avec un rythme plus ralenti, des personnes malades qui ont besoin de soins, qui ont besoin de temps. de temps surtout.
Vous travaillez dans une structure privée
non,
ou publique public. Bah alors, c'est formidable, c'est service public. Combien ça coûte un résident?
Ça dépend de la dépendance. C'est toute histoire du fric. Plus on est dépendant, plus on paye, plus on a besoin d'aide et moins on en a. C'est affolant quand même, affolant. Alors, on est super bon à l'huile aussi sur l'incontinence, sauf que il nous parle de PMSI, de lits occupés, d'activités, mais tout ça, nous, on s'en tape. On s'occupe juste de personnes. On est frustrés dans notre travail de ne pas les prendre en charge correctement. Tout le monde a des droits, mais nous, on a aussi des devoirs de s'occuper d'eux correctement. Et tous les jours, dans les vestiaires, on voit des gens qui pleurent en se disant comment on va s'organiser aujourd'hui, combien est-ce qu'on va être, comment on va faire.
Quelle personne âgée on va pouvoir lever aujourd'hui par rapport à d'autres, parce que comme on n'est pas en nombre suffisant, eh ben on va sélectionner. C'est honteux d'être obligé de sélectionner.
C'est terrible, hein, cette logique-là, elle a émergé pendant le confinement. C'est-à-dire que le problème, c'était pas qu'on avait fermé des lits, c'était qu'il n'y en avait pas assez et qu'on allait devoir sacrifier des gens. Et enfin, moi, j'ai entendu ce discours sur France Intox, me semble-t-il. J'étais extrêmement choqué d'entendre quelqu'un expliquer bah voilà, vu qu'on est devenu un pays du tiers-monde, on n'a pas les moyens de soigner tout le monde. Et les plus vulnérables, eh ben, on va les soigner après parce que ça va nous coûter cher de prendre le risque de sauver quelqu'un qu'on sauvera peut-être pas. D'un seul coup, c'était une espèce de normalisation de l'eugénisme. Bah, les plus faibles, ça vaut pas le coup de claquer du pognon pour essayer de les sauver, donc laissons-les tomber, quoi.
Tout à fait. Et le confinement, il a été fait que pour ça. C'était pas pour protéger les gens, c'est parce qu'il n'y avait pas les moyens suffisants pour accueillir tout le monde dans les hôpitaux s'ils étaient malades. Et c'est quand même dramatique. Alors, on est bon pour donner des leçons dans le monde entier, mais on ferait mieux de nettoyer sur notre palier. Hein.
Une question accessoire et pragmatique, c'est que voilà, un résident qui se retrouve dans un endroit où il y a deux salariés pour s'occuper de 30 personnes, en moyenne, ça lui coûte combien? Un mois en EHPAD, ça coûte une blinde.
Au minimum, à l'huile, c'est 2002.
Minimum
2002, suivant la dépendance qu'on a.
2002, ça veut dire qu'on a une relative autonomie?
Oui, ça doit être dans les GIR 4. 4 assez autonomes, mais on a beaucoup de GIR 1 et 2, donc c'est plus dans les, on va dire dans les 2005. On est,
Et qui gagne 2500 euros à la retraite à notre époque? Qui?
J'aimerais ça en travaillant. On en est loin.
Pour une, qu'on pourrait appeler rapidement une prestation de base, c'est au moins 2000 euros par mois à la louche. Et qu'après, ça peut coûter des 1000 et des 100, enfin tant qu'on veut, si on a les moyens d'aller dans le privé, je veux dire.
Bien sûr, tout à fait. Mais il faut qu'on se rassure. Ils ont le droit à l'APA, ils peuvent avoir le droit à l'allocation logement ou l'APL, je ne sais pas. Enfin bref, c'est du foutage de gueule.
Il y a un truc terrible auquel je pense souvent, c'est que tout ce que les gens qui travaillent ont gagné, le petit pavillon, les 3 francs 6 sous, que les gens ont réussi en 3 générations à se mettre de côté.
Ou pas
d'ailleurs. Le capitalisme n'avait qu'à ronger son frein et attendre un petit peu, parce que tout ce que les gens ont pu gagner et mettre un petit peu de côté depuis 1936, mettons, pour poser un jalon, et ben, avec ce qu'ils ont eu l'insolence d'appeler l'or gris, quand j'ai entendu l'expression surgir il y a peut-être une vingtaine d'années, je me suis dit, ah les salauds, l'or gris. Et je me suis dit que finalement, ce que les gens ont réussi à un peu mettre de côté ou pas en 2 ou 3 générations, et ben là, ils sont en train de le reperdre. Qui a les moyens de payer 2000 balles par mois pour un EHPAD? Bah, en vendant le pavillon, bien sûr.
Oui, et si le conjoint est vivant, où va-t-il? S'il y en a un placé en institution et l'autre qui a sa maison ou pas, si on la vend, mais l'autre, il va vivre où? C'est dramatique. Le passage en EHPAD, en institution, c'est dramatique. Il y a des situations vraiment compliquées parce que lorsqu'on est en attente de placement d'institution, pour la personne qui l'a placé, c'est le deuil, c'est la perte de sa maison, de sa vie d'avant. Le fait de ne plus vivre avec son conjoint, s'ils ont encore la chance d'être en couple. La problématique pour les enfants de comment est-ce qu'on va payer l'institution, parce que les parents, souvent,
Nous, Luynes, c'est un milieu rural, des petites retraites. Beaucoup dépendent de la MSA avec vraiment des petites pensions. Il y en a qui ont 600, 800 euros, 1000 euros par mois. Donc, ça ne suffit pas pour payer. Il faut la vente de la maison. Qu'est-ce qu'on fait de l'autre parent ? Comment on s'organise ? Souvent, les familles, maintenant, ne sont pas rapprochées géographiquement. Il y a aussi ce problème de distance. Des familles aussi qui sont recomposées avec la problématique qui est multipliée parce qu'ils arrivent à des âges où les parents sont placés. C'est vraiment compliqué.
Situation personnelle.
De plus en plus de problèmes sociaux, d'assistance sociale. Et nous, normalement, dans le public, on doit accueillir tout le monde. On est bien d'accord, on est dans le service public, sauf que maintenant, on fait signer aussi des chartes aux patients, des engagements pour pouvoir payer. Donc, on ne prend plus en charge nos aînés en France. C'est dramatique. Dramatique.
Je me suis laissé dire aussi par certains de vos collègues que vous écopez de problèmes supplémentaires pas prévus, parce qu'il y a aussi des gens qui peuvent être, par exemple, agressifs parce qu'ils perdent la boule. Bon, alors, non seulement vous êtes... C'est quoi l'intitulé de votre métier exact, c'est quoi ? Ça s'appelle comment, votre boulot, sur le papier ?
Aide-soignante.
Tout simplement, oui, normalement, aide-soignante.
Et ça implique aussi donc des capacités d'infirmier psychiatrique, etc., parce que vous vous retrouvez avec des gens, je sais pas, qui ont Alzheimer, Parkinson, je sais pas quoi.
On a un service spécifique.
On a une unité de demandés ambulants.
D'Alzheimer, oui. 30 lits, c'est un service fermé. Il y a 16 lits de demandés ambulants, on va dire...
Unité d'hébergement renforcée.
Mais aussi 14 lits du HR, avec un personnel dédié. Alors, c'est du volontariat, sauf qu'il n'y a pas assez de volontaires pour y aller. Donc, il y a aussi des personnes qui sont affectées dans ce service sans l'avoir voulu, qui ne sont pas forcément formées. Beaucoup de problèmes d'agressivité et de violence. Il y a 4 ans, on a eu 4 arrêts de travail, d'accidents de travail dus à la violence. On s'est battu, on se bat tous les jours pour cette unité, pour que le personnel soit en nombre, formé et qui sont en capacité de prendre en charge ces résidents qui sont vraiment avec des pathologies spécifiques, tout en essayant de les maintenir dans un cadre de vie adapté. C'est compliqué tous les jours. Sud, la section de Luynes Sud a réussi à faire entendre certaines choses. Alors, petite victoire, hein, création d'un deuxième poste de nuit, parce que la collègue était seule avec un PTI, c'est une protection du travailleur isolé. C'est une sorte de téléphone où on appuie sur un petit bouton, mais parfois, on n'arrive pas à appuyer dessus, et le temps qu'une collègue vienne d'un autre service, c'est compliqué. Donc ça, c'est une grande victoire pour nous, entre guillemets, mais ça ne suffit pas, et de voir qu'il faut se battre tout le temps pour avoir ce qui devrait être normal. C'est dramatique qu'il faut se battre pour avoir un minimum, le respect, de donner les moyens à hauteur des besoins, simplement. C'est grave que ce ne soit pas donné pour la prise en charge des aînés. Il y a vraiment plein de choses à revoir dans notre système.
Il y a une multitude de problématiques à régler. On se bat tous les jours et on continuera de se battre pour nos anciens, pour nous plus tard.
Et puis surtout aujourd'hui pour nos conditions de travail, c'est pas normal.
On peut avoir du matériel pour les troubles musculo-squelettiques, on a des lèvres-personnes, on a des draps de transfert, on a des verticalisateurs. Voilà, ça du matériel, on peut en avoir. Je dis pas qu'on l'a, on peut en avoir, on peut le demander. Mais alors c'est quand même curieux qu'on n'arrive pas à obtenir des bras. Ça, du matériel, on a des listes, hein, il suffit de cocher, voilà, on a besoin de ça.
Oui, non, mais le matériel, il n'y a pas besoin de lui payer un salaire à la fin du mois.
C'est ça, c'est tout à fait ça.
Et puis en plus, il y a un fabricant de matériel qui est content parce que lui, il reçoit des sous.
Et consommation dans le capitalisme, tout à fait.
Et notre milieu, il n'est pas assez attractif pour tous ces jeunes parce que quand on voit les conditions dans lesquelles on exerce, les jeunes, ça leur fait peur. Et puis quand on voit ce qu'on gagne pour ce qu'on fait, pour ce qu'on donne, pour le temps qu'on y laisse.
Combien tu gagnes par mois au bout de combien d'années de parcours ?
Ça fait
20 et quelques années que je suis dans le métier, je gagne 1750 euros net.
Nanti, privilégié. Et toi, Nathalie ?
31 ans, depuis 1er juillet, à temps plein, évidemment, aussi. 2052 euros, ça, c'est mon net. Dedans, il faut compter deux dimanches ou fériés. Donc, on a une petite prime parce qu'on travaille le dimanche et férié, évidemment. Avec une prime aussi aide-soignante qui équivaut au 10% du salaire de base, plus la prime de 118 euros qui ne compte pas dans notre retraite, évidemment aussi. Et toutes nos primes ne sont pas comptées dans notre retraite. Donc, le salaire de base, machin, ça devrait faire environ 1 800 pour la retraite au bout de 31 ans de travail. En travaillant les dimanches et fériés, j'insiste bien là-dessus, ce qui est normal, ça va avec mon métier, c'est pas du tout une plainte.
Ça fait rêver hein, quand même.
N'est-ce pas ? On peut également penser à nos collègues ASH, les agents du service hospitalier, qui font exactement le même travail que nous, qui en plus ont une part d'entretien de ménage à le faire. Elles ont les mêmes conditions de travail que nous, mais elles n'ont pas les primes d'aide-soignante, elles n'ont pas la prime grand âge. Pour le même travail, elle gagne 300 euros de moins.
Peut-être dans les 400 euros de moins.
Et elles ont les mêmes conditions. Et ce personnel-là est corvéable à merci. On en a besoin, des agents de services hospitaliers, mais elles ne sont pas reconnues dans leur travail, dans leurs valeurs.
Et en EHPAD et au SSR, chez nous, gériatrique, enfin dans tout notre établissement, la différence entre l'hôpital et nous, parfois dans des services des hôpitaux généraux, les ASH ne sont pas auprès des patients comme dans les EHPAD. Donc le travail est différent. Mais chez nous, c'est vraiment travail égal, salaire inégal.
Voilà, tout à fait.
Je vais dire un truc idiot qui sert à rien, mais vous écoutez, même si je sais qu'il y a des gens comme vous, impliqués, engagés, humanistes, qui travaillent dans ces structures. Bon, alors déjà qu'être vieux, ça n'a pas l'air d'être drôle. Mais alors, dans les conditions que vous décrivez, ça donne pas envie d'y aller. Je dis, bon, je vais peut-être recourir plutôt à une bonne branche d'arbre et une ceinture de robe de chambre pour m'épargner ça, parce que si j'avais les moyens, peut-être que j'irais en Suisse. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure aussi que pendant le confinement, là, ils nous ont annoncé cette espèce de génisme économique là, consistant à faire des choix dans les gens qu'on va sauver ou pas. Et là, j'entends émerger de plus en plus alors ce vieux débat hein, sur le choix de la fin de vie, sur ce qu'on appelle l'euthanasie. On peut comprendre le principe de faire le choix de la dignité, de choisir, de s'épargner une vie qu'on n'a plus envie de vivre comme elle nous est imposée. Mais tout ça teinté du capitalisme. Les vieux, de toute façon, c'est pas sexy, hein, ça rapporte pas, c'est moche, ça coûte du pognon à la collectivité, paraît-il, puis surtout, ça bosse pas. Enfin, j'entends là, en ce moment, dans les médias, réémerger ce thème de l'euthanasie. D'ailleurs, j'ai fait un lapsus, j'ai dit l'euthanasie et pas l'euthanasie. Avec le système capitaliste derrière, je m'excuse, ce que je suis en train de vous dire n'est pas vraiment une question, mais je suis en fait vachement troublé par ce qui est en train de s'insinuer dans les médias, dans la mentalité qu'on est en train de nous changer. Ouais, les vieux qui bossent pas, ça coûte cher, il va falloir faire des sacrifices, choisir les patients. Il y a un truc là dans notre société philosophiquement qui est en train de s'instiller. Excusez-moi, c'est même pas une question ce que je suis en train de vous dire.
On peut vraiment se poser la question. Alors certains nous taxeront de parano ou de...
Complotiste, Nathalie, de complotiste. Soyons modernes.
C'est non, mais tout à fait, tout à fait. Quand on voit les services spécialisés hein, du SP, d'unité de soins palliatifs, on a une unité, nous, à Luynes, de 10 lits qui sont ouverts là. Alors, la prise en charge en unité de soins palliatifs, tant mieux, hein, l'effectif est supérieur dans les autres unités. Mais ce n'est pas parce qu'on a une unité de soins palliatifs à lui que malheureusement, tous les patients résidents sont affectés à cette unité. Et on a des patients et résidents en fin de vie dans toutes les unités. Et de voir la différence de prise en charge, les différences sont dues au service géographiquement. Mais qui choisit d'aller en unité de soins palliatifs ? Il faut répondre à certains critères, soit pour fin de vie ou soit pour des problèmes de douleur ou de crise aiguë, de problèmes sociaux. Mais dans tous les services, on a des patients et résidents qui répondraient à ces critères. C'est encore un choix parce que évidemment ça coûte, le soin coûte, alors qu'on devrait tous être prise en charge. Moi, je m'exprime mal parce que ça me remue beaucoup. Je suis désolée et c'est pas préparé.
Non, c'est que ma question était complètement bouillasseuse et c'est pas étonnant que ta réponse le soit aussi.
Donc, du coup, pour finir là-dessus, c'est vraiment anormal qu'on ait une prise en charge. Alors, je pense vraiment ça, de qualité supérieure. Non pas par rapport au savoir-faire et aux techniques et aux prises en charge individuelles qu'on peut donner aux patients, aux résidents, mais de par juste le nombre qui fait que la prise en charge est différente, au nombre de personnes qui gravitent autour, au nombre de personnes qui sont attentives, une prise en charge individuelle et globale au niveau d'une équipe, du médecin, à l'ASH, même à l'agent technique qui va venir réparer quelque chose dans un service qui ne fonctionne pas bien. Et donc cette différence, juste parce qu'on est en USP, on aura la chance d'avoir un personnel disponible par rapport au nombre qu'on est.
Il ne devrait pas y avoir de différence, que ce soit les EHPAD, les soins de suite, rééducation, l'USP. Tout le monde a le droit normalement à une prise en charge individuelle de qualité, mais qui n'est pas.
Et en plus, qui est donné juste à la fin, quand on est un ISP, alors que ça devrait être tout au long de la vie. De la naissance, si on va à la maternité, si on se fait soigner pour un bras cassé, une jambe cassée, un problème de cœur, un problème de rééducation après, si on y finit notre vie, c'est encore une fois une inégalité. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On se bat pour toutes les inégalités de la vie au niveau social, au niveau école, au niveau des soins qui sont donnés, parce qu'il y a toutes ces inégalités sociales, ces inégalités géographiques, avec la fermeture des maternités, par exemple, de proximité, comme on a connu, et maintenant des hôpitaux généraux, des services qui sont aussi fermés, pour tout ça au nom des GHT, des spécialisations. À Tours, on est bien placé, hein. Il y a l'Alliance au Nord, Vinci au Sud dans le privé, les hôpitaux Clocheville qui parlent de fermeture, l'Ermitage qui va faire. On est très bien placé à Tours pour décrire tous ces problèmes. Hein. On le vit au quotidien, fermeture de lits, recentralisation entre guillemets des spécialités, et tout ça au nom de quoi ? Du fric, du fric, du fric.
Et on le rappelle, un projet qui a déjà été évoqué par certains de vos collègues, projet d'une espèce de ferme des 1000 vaches de la santé que va devenir l'hôpital Trousseau, où seront concentrées toutes les pathologies, tous les âges, tous les problèmes, et avec de l'hôtellerie autour, hein, sur le billard le matin et à l'hôtel le soir. Quoi,
et hein, les parkings payants. Et les parkings payants. Pour rendre visite, on sait très bien le temps qu'on passe. On a rendez-vous à telle heure, mais malheureusement, on passera en retard vu le manque de personnel et les retards. Donc, c'est lamentable.
Tu es opéré le matin à 10h et tu es sortant à 14h. Tu tiens pas debout, mais c'est pas grave, on s'en fout, tu vas dehors. C'est ça.
Voilà.
Bon, bah, faut pas devenir vieux ni malade, quoi. Hein, mais
faut rester jeune et bien portant. Mais bon.
Ah, merci du tuyau, mesdames.
Non, mais alors que dans d'autres pays, la vieillesse est vue comme de la sagesse. Hein. Et respectée, et écoutée, et prise en charge. Voilà.
On prend soin des aînés, surtout. C'est quand même un peu grâce à eux qu'on est là aussi. Hein, on n'aurait pas tout ça s'ils n'avaient pas été là, si eux s'étaient pas battus avant. Donc il faut continuer à se battre, et pour eux, et pour nous, et pour tout le monde. Voilà.
Et voilà, c'est ici que se termine cette radio manif de rentrée que tu peux réécouter sur notre site www.polemixetlavoixoff.com, ainsi que plein d'autres émissions plus passionnantes les unes que les autres. Avant qu'on ne se retrouve très vite sur cette même antenne, ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut.
Terminé.
Les petits cons alternatifs doivent s'arrêter maintenant.
Radio G. 101.5 FM.
Oui, c'est...
Come to the dark side. We have candy.
Yes, but you have coffee.
Sure, we have coffee. Have you taken?
pretty good. I'm not scared at all. I just feel kind of... I feel kind of invincible.
I'm not stuck, motherfucker. I'm too ill to chill.
Too dope to cope.
Too lit to quit.
You fuck a peanut butter and jelly, you talk shit. My foot kicks your ass.
My fist splits your lip.
My mom shut me up with a tape. Now I get paid for talking all day.
Fuck, cold wait.
I'm boxing sweet, my love's cocaine.
I love coffee, but not a fuck. When I drink Starbucks, cause Starbucks sucks.
Yeah, they should do this guy.
I guess sad and...